Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Aussi étrange que cela puisse paraître, les hommes et les femmes de notre temps n'assimilent pas toujours l'Église catholique à un lieu d'expérience spirituelle. Aussi, pour essayer de changer auprès d'eux cette image, nous avons imaginé cette série d'émissions sur les trésors de la vie spirituelle. Figures de saints, grandes familles religieuses, nous essayons au long de cette année de vous emmener à la découverte de quelques-unes des perles de la tradition chrétienne, en espérant que beaucoup trouveront ainsi chaussures à leur âme. Les trésors de la vie spirituelle, donc quatrième émission de cette grande série annuelle avec ce matin Augustin Laffaye, prêtre religieux dominicain et historien, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir au micro de Vivante Église. On va donc partir à la découverte de la famille dominicaine, vaste sujet, on n'en fera pas le tour en une émission, et par cette même occasion, évidemment, autour de la figure de Saint Dominique. Peut-être ma question d'ouverture ou de préambule, est-ce que le religieux que vous êtes se retrouve un petit peu dans ce constat que je faisais au début de l'émission ? On entend souvent dire que la France n'est pas un pays chrétien, mais même que nos contemporains ne voient pas d'abord l'Église catholique comme un lieu d'expérience spirituelle. Ça vous parle comme remarque ?
Oui, un petit peu, parce que... Ouais bien, on a peu de soucis de son âme aujourd'hui, on a plus de soucis de son bien-être parfois que de la perspective de la vie éternelle, finalement, à laquelle nous ouvre la vie spirituelle, et perspective qui a cet aspect enthousiasmant qu'elle n'est pas une pure illusion pour demain, mais que les choses commencent aujourd'hui sérieusement, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Voilà, il faut prêcher ça. À la fois encourager les gens à vivre dès aujourd'hui ce qu'ils sont appelés à vivre pour toujours.
Alors, Dieu sait s'il y a un homme qui a pris au sérieux, en tout cas, l'appel évangélique, c'est donc Saint Dominique, Dominique de Guzman. On va partir un petit peu à la découverte de cet homme, probablement très connu de quelques auditeurs, pardon pour eux, mais fort mal connu d'un certain nombre d'entre nous. Il naît en 1170, alors on ne va pas faire une bio extrêmement exhaustive, mais il décède le 6 août 1221, canonisé par l'Église peu de temps après, en 1234, et il est fêté par l'Église le 8 août. Qu'est-ce que vous diriez peut-être pour commencer, pour présenter cet homme? J'ai cru comprendre que sa mère avait, dès sa grossesse, si j'ai bien compris, eu des songes qui lui laissaient entendre que ça ne serait pas un enfant comme les autres.
Oui, alors ça c'est un...
C'est la légende dorée.
C'est la légende dorée, oui, c'est la légende tout court, c'est-à-dire ces textes qui sont écrits après la mort d'un saint au Moyen-Âge pour illustrer sa vie dans le cadre de la liturgie. Donc c'est des lieux communs, un petit peu, puisque la mère de Saint Bernard avait fait le même rêve pour son fils, un siècle avant. C'est des lieux communs pour dire que finalement Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il avait un plan pour Saint Bernard, il a un plan pour Saint Dominique, il a fait quelque chose de lui. Alors l'histoire racontée dans cette légende, c'est effectivement que sa mère rêvait d'un petit chien noir et blanc qui portait une torche enflammée dans la gueule, qui parcourait le monde en y mettant le feu de la charité. Charité et vérité intimement liées, vérité de la foi et puis le feu de l'amour de Dieu pour embraser les hommes.
Avant qu'on parle de Saint Dominique et de sa découverte dans la région Occitanie des bons hommes ou des bons chrétiens, comme on appelle aussi les cathares, qu'est-ce que vous diriez peut-être sur la période qui précède? Qu'est-ce qu'il est important d'avoir en tête?
Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la vie religieuse telle qu'on la connaissait avant Saint-Dominique, dans ses grands renouveaux, c'est la vie des moines, d'abord des moines noirs et des moines blancs, c'est-à-dire des bénédictins, et puis des cisterciens. L'ordre nouveau, l'ordre international, l'ordre très unifié, fondé... non pas par Saint-Bernard, mais disons qui reçoit de Saint-Bernard un élan décisif au XIIe siècle.
Ça, c'est pour les cisterciens.
C'est pour les cisterciens. Et puis, juste avant Saint-Dominique, il y a aussi un renouveau de la vie des chanoines, c'est-à-dire des espèces de religieux qui sont aussi des apôtres dans un cadre paroissial ou qui ont une vie austère hein, et qui ont une mission de prédication auprès des gens, ce qui est nouveau.
C'est d'ailleurs là-bas que Saint-Dominique commence sa vie religieuse, non ?
Voilà, alors Saint-Dominique donc, est né en Espagne, on ne sait pas tant de choses que ça. En tout cas, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas un Guzman, hein, même si beaucoup de biographies l'appellent Dominique de Guzman. On ne sait pas beaucoup de choses hein, sur l'enfance des personnages du Moyen-Âge le plus souvent. C'est des textes postérieurs qui ajoutent des détails. On sait simplement qu'il est voué à l'Église d'une certaine manière assez tôt, qu'il fait des études poussées et qu'il est appelé à être prêtre. En fait, diocésain. Il est d'une famille notable hein, du sud de Burgos, de la Castille. Et il choisit hein, volontairement, et il est choisi sans doute pour devenir chanoine du chapitre de l'église cathédrale d'Osma. Osma, c'est une très belle cathédrale encore aujourd'hui. Puis surtout, c'est un très ancien siège épiscopal en Espagne. Et là, un évêque réformateur a mis en place une vie religieuse apostolique extrêmement sévère. Mais une vie apostolique qui en même temps se déroule dans un cadre relativement restreint, hein, autour d'Osma et à partir de la cathédrale. Alors le grand changement dans la vie de Saint-Dominique...
Donc c'est dans le cadre, c'est avec cet évêque qu'il traverse la France et donc en partie l'Occitanie.
Exactement.
Et qu'il tombe donc sur ces bons hommes, ces bonnes femmes, ces
bons
chrétiens.
Alors emmené par cet évêque pour une mission, pour une ambassade au nord de l'Europe, il sort pour la première fois de sa Castille natale alors qu'il a un peu plus de 30 ans. Qu'il n'a vu que finalement le monde catholique et puis le monde musulman de loin, hein, puisque l'Espagne à l'époque est un champ de reconquête encore par les chrétiens sur les musulmans. Et il découvre l'hérésie, c'est-à-dire l'erreur concernant la foi, hein, telle qu'elle se présente à Toulouse et dans sa région, et ça le bouleverse. Donc lui est un prêtre, un clerc, un religieux, si vous voulez, à la suite de son évêque. C'est pas lui qui est à la tête de cette mission.
Qu'est-ce qu'il bouleverse précisément ? Est-ce que vous pouvez préciser ?
L'erreur. C'est-à-dire le fait que des gens risquent pour lui leur salut éternel, la vie éternelle, parce qu'ils se trompent. Ils se trompent sur Dieu, ils se trompent de Dieu. Hein, ils méprisent d'une certaine manière le corps, la matière. Ils se détournent aussi de l'Église, en partie à cause des fautes hein, des clercs, qui sont visibles, trop visibles.
Hein, entre autres la richesse ou
la richesse, la mauvaise conduite, l'inconduite des clercs, leur incapacité à expliquer l'évangile, hein, les mystères de la foi. Et donc, il a pitié, si vous voulez, de ce troupeau hein, qui s'égaille. Et ça se passe vraiment dans la région de Toulouse, dans le Lauragais. Hein, et à l'issue de cette mission, son évêque et lui vont se proposer pour être missionnaires, cette fois-ci, dans la région, entre Carcassonne et Toulouse, hein, missionnaires d'un nouveau genre, missionnaires à pied, pauvres, pour aller au contact de la population, non pas comme des prélats notables qui parleraient un latin compréhensible pour le peuple et les gens qu'ils rencontrent, mais pour annoncer la vérité de la foi et la prêcher en cohérence avec leur propre vie.
Alors donc en 1215, il s'établit à Toulouse, c'est pour ça qu'on a fêté récemment, de 2015 à 2017 si je ne me trompe pas, donc le jubilé, les 800 ans de l'ordre dominicain. À quoi ressemblaient en fait ces dominicains au XIIIe siècle quand ils allaient en campagne comme ça à la rencontre des bons chrétiens ou des bons hommes ou des bonnes femmes, quand on dit qu'ils prêchaient, ils étaient pauvres et qu'ils prêchaient, est-ce qu'on sait exactement ce qu'ils faisaient, à quoi ressemblaient ces missions qu'ils vivaient ?
Alors d'abord, extérieurement, ils ressemblaient à des mendiants, à tel point que les dominicains vont revendiquer ce qu'on va leur donner comme qualificatif, comme sobriquet, hein, ils vont revendiquer le fait d'être un ordre mendiant hein, au milieu du XIIIe siècle, comme les Carmes, comme les Franciscains, comme des religieux augustiniens. Hein, donc ils ressemblaient quand même à des pauvres. On en a un exemple très, très fort à Toulouse quand on visite la maison Seyant, hein, qui est le premier lieu d'installation des dominicains, qui est une toute petite maison, 6 places du Parlement, dans les locaux de l'Institut catholique, et qui est le lieu où Dominique s'installe donc en mai 1215 avec une douzaine de compagnons. C'est tout petit, hein. Le lieu existe, hein, donc il ne faut pas hésiter à aller le visiter, pour les Toulousains. Et il ressemble à, si vous voulez, à des prédicateurs itinérants, mendiants. Hein, donc Dominique, on sait, a un mode de vie très austère. Lui-même, par exemple, a choisi de parascèse, de marcher pieds nus sur les chemins. Mais comme il ne fait pas de cinéma, il se chausse quand il rentre dans une ville ou un village, hein, pour qu'on ne remarque pas qu'il a posé cet acte d'ascèse. Il mendie son logement, il mendie son pain, accompagné d'un camarade, d'un frère, hein, qui lui sert de socius, comme on dit dans le latin des dominicains, c'est-à-dire de compagnon, de route, de mission, de prédication.
Et ensuite, ils arrivaient dans les villages, ils se mettaient à prêcher, ou alors tout simplement, ils allaient d'abord à la rencontre des habitants pour discuter avec eux, ou pour...
Alors, on a
peu de traces.
On a peu de traces, sinon les traces qui ont été laissées par le procès de canonisation de Saint-Dominique, hein, qui a donné lieu à l'interrogation d'un certain nombre de personnes qui l'avaient accueilli une douzaine d'années après sa mort. Et effectivement, il y a bien des rencontres et bien des hébergements, hein, qui sont liés, comme pour des pèlerins de Saint-Jacques, peut-être aujourd'hui, à des rencontres au bord du chemin, hein, et des discussions qui se prolongent tard le soir. Hein, et puis voilà, des maisons qui deviennent amies parfois, hein, et que Dominique retrouve quand il passe, toujours avec un compagnon.
Alors, il y aurait bien d'autres choses à dire, et puis on va faire ça au fil de l'émission. Dans la deuxième partie, on essaiera de mettre l'accent sur certains des traits peut-être saillants de votre famille spirituelle. Puis à la fin de l'émission, on vous demandera, vous, en quoi elle vous transforme, cette famille spirituelle. Cet ordre connaît une croissance très rapide. Pardon, il y aurait plein d'autres choses à dire. J'ai lu donc au 14e siècle, ils étaient déjà 10 000, c'est ça ?
Oui.
18e siècle, 20 000 membres.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots avant qu'on nous parle un petit peu d'aujourd'hui, de la pérennité de cet ordre dominicain ou de sa croissance comme ça en quelques siècles?
Alors, sa croissance est grande, mais elle a été beaucoup moins grande, par exemple, que celle des franciscains. Hein, la figure de Saint François a vraiment attiré derrière lui des foules, des milliers d'hommes, hein, dès le Moyen-Âge. Donc elle a été plus modeste. Mais elle a été importante parce qu'il y a un idéal nouveau qui correspond aussi à des aspirations des hommes du XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, c'est le siècle de la naissance des universités. Il y a toute une jeunesse universitaire, hein, qui va suivre les dominicains, qui va être touchée par cette parole un petit peu structurée et cette parole d'intelligence de la foi que Dominique veut transmettre. Hein. La foi a des raisons. Il y a des raisons de croire, hein, et Dominique veut expliquer ses raisons, exposer ses raisons pour aider les gens à aller dans le bon sens. Alors ça va attirer beaucoup de monde à sa suite jusqu'à aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, 6000 frères, 3000 moniales, 25000 religieuses apostoliques, 150000 membres laïcs. Difficile de résumer l'importance des dominicains. Je me disais que le mieux, ce serait peut-être de choisir quelques figures qui peuvent dire la variété des engagements et de la fécondité des dominicains. Je notais entre autres Bernard Brault, que peut-être certains connaissent, qui était un célèbre prédicateur qui est décédé il y a peu, c'était en octobre dernier, qu'on pouvait voir sur la chaîne de télévision catholique. Que citeriez-vous d'autres? On pense au père Henri Burin des Rosiers aussi, dans un tout autre genre, avocat auprès des Santerres en Amérique latine. Quels sont les noms qui vous viendraient en tête comme ça?
Celui de Pierre Clavry, hein, donc l'évêque d'Oran en Algérie, qui va être béatifié, reconnu bienheureux et martyr dans quelques jours, hein, officiellement. Donc cet évêque, hein, qui a tenu à rester jusqu'à la mort, hein, sur cette terre d'Algérie où il avait été appelé pour la mission, hein, et puis pour l'épiscopat à la fin de sa vie. J'ai rencontré, hein, Henri Burin des Rosiers, j'étais novice quelques mois avant sa mort à Marseille. Et j'ai entendu, c'est d'ailleurs très émouvant d'y penser, j'ai entendu un homme qui disait que sa vie était menacée, qu'il le savait, que la sécurité algérienne lui avait proposé de s'armer, qu'il trouvait évidemment que c'était...
Là, vous parlez de Pierre Clavry.
Pierre Clavry. Oui. Et qu'il trouvait évidemment que c'était pas... le rôle d'un évêque de s'armer, et, mais qu'il savait que sa vie était menacée. Il a dit, mais j'étais appelé là, et puis le témoignage à la suite du Christ exige que je reste, voilà, quoi qu'il puisse arriver.
Dans la grande famille qu'est l'Église, peut-être ce sera ma dernière question avant une première pause musicale, quelle est la, on va dire, si vous deviez résumer à la fin de cette première partie, un petit peu la couleur particulière du diamant que sont les dominicains au cœur de l'Église, qu'est-ce que vous diriez?
Ils ont un rôle très particulier de service de l'Évangile. L'ordre des prêcheurs a épousé le Verbe. Le Verbe s'est fait chair, la parole éternelle de Dieu s'est faite chair. Eh bien, la mission des dominicains, c'est de prendre à bras-le-corps, en quelque sorte, de tout son être, ce Verbe, de l'incarner, d'une certaine manière, pour les hommes de son temps. Donc, la mission des dominicains, c'est la mission du Verbe, de la parole, de l'Évangile.
On va faire une première pause et puis on vous retrouve après donc pour cette émission sur les trésors de la vie spirituelle et particulièrement donc sur la famille dominicaine.
Emmanuel Pella.
Les trésors de la vie spirituelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Et nous sommes ce matin donc avec Augustin Lafay, prêtre religieux dominicain et historien, pour parler de cette grande famille à l'intérieur de l'Église que sont les dominicains. Chose promise, chose due, on s'est dit dans cette deuxième partie qu'on allait essayer de mettre l'accent sur quelques particularités de votre famille. Alors il y en a certainement bien d'autres. Les deux particularités qu'on a retenues, c'est l'importance de la prédication et une forme de gouvernement assez ou très démocratique. Si l'on commence par la prédication, vous disiez que les dominicains, c'était des hommes du Verbe, c'est semble-t-il ce que l'on dit de Saint Dominique. J'ai lu de lui, alors là je ne sais pas si pour le coup ça fait partie de la légende dorée, que cet Dominique avait une grande soif des âmes et de leur salut. C'est en général la marque de tous les saints, mais il est dit de lui que parfois il pleurait des nuits durant, se demandant ce qu'allait devenir ceux qui n'ont pas connu le Christ. Est-ce que ça fait partie de la légende dorée, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus sûr ou fiable ?
C'est plus fiable parce que, historiquement, parce que c'est attesté par de très nombreux témoins du procès de canonisation, tant dans l'enquête qui a été faite à Bologne, en Italie, là où il est mort, que dans l'enquête qui a été faite à Toulouse. Donc il pleurait, et même il avait une vie d'ascèse pour les autres.
Alors, est-ce que vous pourriez expliquer, pour ceux pour qui ça paraîtrait un peu étonnant ou fou, de pleurer la nuit pour le salut des âmes ? Comment traduire ça avec des mots d'aujourd'hui, peut-être c'est...
Quand on se sent impuissant devant la souffrance de quelqu'un, il y a une manière de montrer qu'on compatit avec lui, hein, qui s'exprime alors par la sensibilité et par les larmes, hein, pour Dominique, aussi par la volonté de ne pas avoir le ventre plein, par exemple, alors que d'autres sont dans le désespoir. C'est une manière, si vous voulez, de partager la douleur, la peine des autres, hein, et de sentir aussi qu'on a une mission vis-à-vis d'eux. Dominique se sent, je crois, très fondamentalement lié au sort des autres hommes. Il ne fait pas son salut pour lui. On ne se sauve pas tout seul dans la vie chrétienne. On se sauve avec les autres.
Alors, ça, c'est pour éclairer les larmes. Et si on devait éclairer, quand on dit qu'il avait une soif très ardente du salut des âmes, qu'est-ce qui est dans des mots d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait ?
Ça veut dire qu'il croit que les béatitudes, la vie, selon le discours de Jésus dans le sermon sur la montagne, fait le bonheur de l'homme. Hein, et qu'il faut finalement aider ses contemporains à entrer dans cette voie de don de soi, hein, de don de sa vie, d'amour, même des ennemis, hein, contre toute évidence, parfois, enfin, contre une logique d'accaparement ou d'enrichissement ou de satisfaction personnelle.
Alors on sait quelle est la part, quand on connaît un petit peu les dominicains, l'importance de la prédication, mais un certain nombre de choses au sujet de cette prédication, c'est aussi l'exigence un peu d'excellence qui habite le cœur de votre ordre. Je ne sais pas si c'était une exigence qu'avait Dominique. J'ai retrouvé, je ne retrouve plus cette citation, mais il est dit à un moment que votre bibliothèque, c'était comme le donjon de la forteresse assiégée que sont les dominicains, enfin en tout cas que les livres sont aussi des armes. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ?
Oui, on ne peut pas prêcher la vérité sans la contempler, c'est-à-dire la regarder, être admiratif et puis l'étudier, hein. C'est-à-dire en pénétrer les raisons. Vous voyez, vous vous mettez face à un très beau paysage, face à une belle œuvre d'art, vous pouvez être saisi, hein, par le spectacle qui s'offre à vous. Hein. Il y a quelque chose qui esthétiquement est plaisant, bouleversant, suscite beaucoup d'émotions. Et puis après, vous pouvez essayer d'aller plus loin en disant, mais qu'est-ce qui me touche particulièrement dans ce paysage, dans ce visage, dans ce tableau, hein, dans cette œuvre d'art ? Eh bien, c'est le même regard pour lui qu'on doit avoir face à la révélation, c'est-à-dire à la manière dont Dieu parle de lui dans l'Écriture et à travers son Église. Il se met face à cette révélation avec un regard contemplatif, et ce regard contemplatif appelle, d'une certaine manière, l'étude, cette exigence dont vous faites mention.
Est-ce que vous pouvez faire, expliciter davantage au regard, par exemple, des franciscains qui naissent à peu près à la même époque et pour qui l'exigence d'étude n'était pas la même ? Parce qu'on peut témoigner de ce qu'est l'Évangile sans forcément être savant. En l'occurrence, c'est parce que oui. Les dominicains avaient un appel singulier.
Oui, alors
un appel singulier.
Même si très vite chez les franciscains, justement, il va y avoir une crise importante, hein, qui va propulser à la tête de la famille franciscaine Saint-Bonaventure, qui va donner une place beaucoup plus importante à l'étude, parce que lui-même est un grand intellectuel.
Docteur de l'Église, non ?
C'est... Voilà, docteur de l'Église, et qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose à saisir. Mais, disons, c'est des vocations complémentaires. Saint-François et Saint-Dominique sont des espèces de jumeaux, mais de faux jumeaux. Hein, donc ils sont de la même époque, ils se sont peut-être rencontrés, mais on voit bien qu'il y a des dimensions un petit peu qui complémentaires entre l'un et l'autre.
Comment vous préciseriez l'art de la prédication ? J'ai cru comprendre aussi qu'on pouvait faire toutes les études qu'on voulait, avoir toute la science que l'on souhaite, que la prédication, vous considérez chez les dominicains qu'à un moment c'est un don de Dieu. Est-ce que vous pouvez préciser ça ?
Alors c'est Humbert de Romans, qui est un des successeurs de Saint-Dominique à la tête de l'ordre au XIIIe siècle, qui dit c'est en jouant de la harpe qu'on devient harpiste, hein, mais la grâce de la prédication ne s'obtient que par un don spécial de Dieu. Il y a vraiment l'idée que reconnaître une vocation dominicaine, c'est reconnaître que quelqu'un a appelé un homme ou une femme, car il y a des dominicaines, à prêcher, lui a donné ce charisme, c'est-à-dire cette force particulière, cette grâce particulière pour le service de l'Église. Si vous voulez, les dominicains doivent développer des techniques de prédication. Et ils l'ont fait au cours des siècles en devenant parfois des hommes de presse ou d'édition. Les éditions du Cerf en France ont été fondées par des dominicains au XXe siècle, en devenant des hommes de télévision. Vous avez cité le père Brault tout à l'heure, qui a...
Grand conteur, je ne sais pas s'il faut dire conteur.
Oui, exactement, grand conteur, grand prédicateur, mais aussi on peut penser aux frères qui ont fondé le Jour du Seigneur et les émissions télévisées du dimanche matin sur le service public. C'est une initiative des dominicains pour prêcher, donc pour ça il faut de la technique, mais la technique ne suffit pas. Le meilleur technicien du monde ne peut pas transmettre quelque chose qui est gratuit, qui est le don gratuit de Dieu.
Comment juge-t-on une bonne prédication ? Il ne faut jamais juger ta prédication comme de sa prière, ou est-ce que c'est quand les gens se mettent à pleurer, quand ils se précipitent derrière vers vous parce qu'ils veulent continuer à discuter avec vous, parce qu'ils demandent le sacrement de la réconciliation, je ne sais pas.
Vous savez, le père Lacordaire au XIXe siècle est certainement le prêtre qui a parlé au plus grand nombre de Français durant tout le XIXe siècle. En direct. Eh bien, on disait que, en le comparant au curé d'Ars, le père Lacordaire faisait grimper les gens sur les confessionnaux, tandis que le curé d'Ars faisait entrer les gens dans les confessionnaux. Parce qu'il y avait une telle foule dans les cathédrales où se produisait le père Lacordaire que les gens, de fait, grimpaient sur les piliers. Et même, on a vu des gens assis sur des confessionnaux, dans les bas-côtés d'église, pour essayer de trouver une place. Bon, et on disait, mais Lacordaire ne conduit pas les gens à mener immédiatement une vie chrétienne. Oui, mais il avait cette grâce de les conduire au moins à s'interroger et à remettre en cause leur mode de vie habituel et leur autosatisfaction. Voilà, donc je pense qu'il y a des charismes un petit peu différents même dans le champ large de la prédication. Un bon prédicateur, c'est quand même quelqu'un qui touche. Dans la rhétorique classique, on sait que la prédication, à la fin, doit toucher. Alors toucher plus le cœur, toucher plus l'intelligence, ça dépend du prédicateur, de la grâce qui lui est faite, de sa grâce propre.
L'autre point que l'on voulait souligner, c'est donc la manière dont est gouverné l'ordre, puisque vous êtes connu pour avoir un mode de fonctionnement très démocratique, semble-t-il voulu dès sa fondation par Saint-Dominique, voulant faire en sorte que l'ordre ne lui appartienne pas à lui seul. Est-ce que vous pouvez nous détailler la manière dont le gouvernement s'exerce à l'intérieur des dominicains et en quoi c'est un exemple de gouvernement démocratique ?
Alors, certains qu'il y a une sagesse de gouvernement qui se manifeste par le fait que le mode de fonctionnement de l'ordre est en son noyau central le même depuis le XIIIe siècle. L'idée de base, c'est que ce qui concerne tout le monde doit être traité par tous. Et donc tout frère, toute communauté est impliqué donc à son échelon dans le gouvernement de sa communauté, dans le gouvernement de l'ordre.
Donc vous avez différents chapitres, c'est ça ?
Voilà, alors il y a donc localement, dans un lieu, dans le couvent où il vit, un frère qui est engagé définitivement dans l'ordre, on dit prophète solennel, a voix au chapitre. Hein. Il élit son supérieur, son prieur, pour 3 ans. Tous les supérieurs, hein, tous les prieurs dans l'ordre des prêcheurs sont élus.
Tous pour 3 ans ?
Alors, pour 3 ans pour le prieur local, pour 4 ans pour un prieur provincial, hein, une province étant la communion hein, de plusieurs couvents, le regroupement de plusieurs couvents, et puis pour 9 ans dans le cadre de l'ordre.
Et à chaque... Donc international en l'occurrence.
Voilà, international. À chaque échelon, si vous voulez, que ce soit l'échelon local, l'échelon provincial, régional, hein, et puis l'échelon général, à chaque échelon, il y a donc une personne élue, et puis aussi une assemblée donc, qui se réunit pour l'élection, entre autres, de cette personne, qu'on appelle le chapitre. Hein, chapitre conventuel, chapitre provincial ou chapitre général. Et ces chapitres sont aussi des espèces d'assemblées législatives, composées à la fois de ceux qui gouvernent l'ordre à ce moment-là, et puis de frères qui sont élus spécialement pour cette occasion, pour représenter la communauté.
Les décisions se prennent, par exemple, pour l'élection d'un prieur ou d'un provincial, les décisions se prennent quoi, la majorité des deux tiers ?
À la majorité absolue. Avec un. Dans un scrutin secret.
Donc 50 plus 1.
Voilà, 50 plus 1.
Et ça a toujours été une richesse pour l'ordre, pardon de poser cette question, parce que chaque type de gouvernement a probablement ses avantages et ses inconvénients, non ?
Alors, la richesse immense, c'est que tout le monde est impliqué dans ce mode de gouvernement. La difficulté, c'est que ça exige une grande vertu de ceux qui sont impliqués. Hein, il faut se sentir responsable. On est responsable, mais il faut se sentir responsable et agir de manière responsable. Il y a eu des faux pas, hein, mais il y a eu également beaucoup de force, de grâce et de souplesse hein, grâce à ce système.
Donc ça, c'est pour l'élection, mais est-ce que pour toutes les décisions importantes de la vie d'un monastère ou d'un prieuré, je ne sais pas comment on dit exactement,
d'un couvent,
les décisions sont aussi prises à la majorité absolue ? Est-ce que vous auriez des exemples, par exemple, pour votre vie conventuelle ?
Oui, absolument. Le décider, par exemple, de faire des travaux dans un couvent comme on le fait à l'heure actuelle au couvent de Rangueil, à partir d'une certaine somme, d'un certain volume de travaux, nécessite l'accord du chapitre, donc une décision, un vote de la communauté. Donc, ceux qui sont responsables de la communauté à ce moment-là vont expliquer pourquoi il faut faire ces travaux, comment il faut les faire et sollicitent un accord hein, qui est indispensable pour pouvoir aller plus loin.
Qu'est-ce que vous diriez, on va dire, de la vertu de ce type de gouvernement ? Parce que toutes les grandes familles religieuses ne fonctionnent pas comme ça. On sent derrière ça que ça ressemble à la fameuse synodalité, chère au pape François, dont on essaye de parler souvent à cette antenne. En tout cas, peut-être une volonté de décentralisation de l'Église. Est-ce que pour vous, c'est un peu le même mouvement ? Qu'est-ce que les dominicains ont à apporter, on va dire, au cœur de l'Église comme...
L'important, c'est que chaque personne soit vraiment acteur de ses décisions. Et ne soit pas passif dans le processus. Hein. Et certain que le fonctionnement de l'ordre, normalement, le permet. Hein. Quand on est au moins engagé dans un cycle vertueux, qu'on a des supérieurs à la hauteur. Hein.
Mais est-ce une manière, on va dire, vertueuse qui peut infuser dans le reste de l'Église, on parle aujourd'hui beaucoup du cléricalisme, en tout cas le pape François parle beaucoup du cléricalisme, est-ce que ça peut aider à éviter ce cléricalisme ?
Alors ce qui est certain, c'est que, si vous voulez, notre mode de gouvernement, notamment par mandat temporaire, le fait qu'un prieur qui quitte sa charge n'est rien d'autre qu'un frère. Hein, il n'a pas des espèces de privilèges qui lui sont dus. Il regagne la place au milieu des autres. Voilà. Alors, s'il a acquis une expérience, hein, dans le meilleur des cas, dont les autres ont tout intérêt à profiter, hein, et il faut l'écouter. Mais vous voyez, ça appelle la vertu, justement, pour en prendre acte.
Je vois qu'il nous reste un petit peu de temps avant de faire une deuxième pause. Si vous deviez choisir un autre charisme propre à la vie dominicaine, lequel vous viendrait le plus naturellement ? Je pensais par exemple, je ne sais pas si c'est propre, si c'est un charisme qui vous est propre, mais en tout cas, c'est une des grandes réalités de la vie apostolique des Dominicains en France, le pèlerinage du Rosaire, qui est probablement le plus important pèlerinage de France à Lourdes, et puis le Rosaire qui est traditionnellement associé à la vie dominicaine. Est-ce là, on va dire, une marque aussi dominicaine?
Oui, il y a une dimension mariale dans l'ordre dès le XIIIe siècle, comme dans beaucoup d'ordres religieux, mais nous, nous la vivons de manière tout à fait particulière, puisque à partir du XVe siècle, c'est dans des milieux dominicains que vont s'organiser des confréries du Rosaire, hein, dans lesquelles on invente, si je puis dire, le chapelet moderne, hein, le chapelet de cinq dizaines, qu'on réfléchit, des frères réfléchissent à la manière de pouvoir aider les fidèles à prier une prière simple et nourrissante qui fasse contempler l'évangile et découvre la richesse des mystères, hein, du rosaire. Alors, on a le sentiment d'un bien propre, si vous voulez, à partir du XVIe siècle, hein, jusqu'à aujourd'hui, et avec cette chose très
jusqu'à
belle,
cette légende dorée, c'est ça. Est-ce que la légende a été construite après, que ce serait la Vierge qui directement aurait serait apparue à Saint-Dominique
dans
avec
la forêt de
Boucone, à la main, oui.
Dans la forêt de Boucone. Alors j'aurais l'historien en moi.
Forêt de Boucone, c'est proche de la région toulousaine, je le précise.
Oui, l'historien en moi résiste un peu à la vérité de l'histoire. Mais elle dit quelque chose du lien des Dominicains avec la Vierge Marie, avec cette prédication du Rosaire. La prédication du Rosaire est bien une espèce de bien propre à l'origine, hein, de l'ordre. Avec cette particularité que le Rosaire est une prière aussi pour les laïcs, voyez, et qui va soutenir des communautés persécutées ou isolées. On l'a vu au Japon, on l'a vu au Brésil aussi, des communautés d'esclaves brésiliens par exemple, d'esclaves marrons, d'esclaves qui avaient fui, hein, avant l'abolition de l'esclavage, vivaient, disons, leur vie chrétienne, hein, en priant le rosaire, hein, qui leur avait été enseigné par des religieuses ou des religieux. Donc il y a quelque chose de très beau. On sait qu'à l'époque de la Révolution française, le rosaire aussi, au moment de la dispersion d'un grand nombre de prêtres, a soutenu, hein, des fidèles. Et c'est une prière tellement élémentaire et tellement fondamentale qu'elle est évangélique.
La prière du pauvre, comme disait Saint Jean-Paul II, si je ne me trompe pas. Et on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour une dernière partie sur ce que peut-être la vie dominicaine a commencé de transformer en vous, et ça peut nous aider à nous mettre en chemin vers cette spiritualité. Et il peut y avoir un effet d'identification des auditeurs, que ça leur donne envie de rejoindre cette famille spirituelle, ou en tout cas de s'en nourrir.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les trésors de la vie spirituelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, en ce lundi matin, premier lundi du mois, puisque c'est notre grande série annuelle en partenariat avec l'Institut Jean de la Croix, institut de spiritualité, au cœur de l'Institut catholique de Toulouse, pour partir à la découverte des trésors de la vie spirituelle, donc tant les familles spirituelles qui existent dans l'Église que des grandes figures de saints. On aura vu cette année pour l'instant les bénédictins, et aujourd'hui donc les dominicains avec Augustin Laffay, prêtre religieux dominicain et historien. Avant de vous poser quelques questions plus personnelles, je voudrais faire écho à l'affirmation ou à la formule que j'avais trouvée en introduction, que j'avais dite en introduction, en espérant que beaucoup d'auditeurs trouveront chaussure à leur âme. On a l'habitude de dire qu'il y a comme des familles d'âmes. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans le fond, chacun doit essayer de trouver réellement chaussure à son âme?
Alors oui, il y a des familles d'âmes, et je pense que c'est, si vous voulez, dans la croissance la croissance spirituelle, c'est très important de reconnaître quelle est sa famille d'âmes. Il y a des saints qui vous parlent, vous voyez, dès votre enfance, dans votre adolescence, ou quand vous devenez adulte, que vous les découvrez, et dont vous sentez qu'ils vous sont comme des frères, des sœurs, qui sont, tout proches pour vous. Il y en a qui sont plus éloignés, non pas parce que vous ne les aimez pas, non pas parce que vous ne les connaissez pas, mais parce que vous n'avez pas de traits communs qui vous apparaissent à eux. Je crois que c'est très important de découvrir qu'il y a des maisons diverses, nombreuses dans la maison du Père, des maisons qui communiquent les unes avec les autres, qui n'empêchent pas qu'on soit réunis au ciel pour un banquet commun, mais avec une personnalité propre, une dimension propre. Donc moi je sais, dans ma propre vie, que j'ai lu Léon Blois, un grand écrivain de la fin du 19e siècle, avec passion dès mon adolescence, que j'ai découvert après Jacques Maritain. Jacques Maritain était un filleul de Blois, je ne savais pas au moment où j'ai découvert Maritain. Et j'ai découvert Saint-Dominique, avec lequel Maritain a eu tellement de liens. Et si vous voulez, en entrant dans la vie religieuse, je me suis rendu compte que tout ça était cohérent.
Qu'est-ce qu'il y a comme critère, on va dire, de discernement? Est-ce que le seul critère pour se dire ça, c'est ça ressemble à ma famille spirituelle et il faut que je creuse ce sillon, c'est juste l'amitié avec certaines figures de sainteté, c'est de s'y sentir à l'aise assez naturellement? Qu'est-ce que vous diriez?
Alors, il faut, je crois, être certain que ceux dont on s'en proche comme ça spirituellement sont solides. Il y a un certain critère de solidité. Il faut pas, on peut avoir des affinités avec quelqu'un de très fragile ou quelque chose de très marginal. Il faut que ce soit solide et assez central, si vous voulez, par rapport au mystère chrétien. Quelqu'un qui vous dise quelque chose de central du mystère chrétien. Mais après, je crois, oui, qu'il y a cette notion d'amitié est belle. Si vous voulez, on est un peu dans l'amitié sur un plan d'égalité, avec ceux dont on est l'ami, et c'est le cas avec des saints, mais aussi avec des écrivains, ou des grandes figures de chrétiens.
Voilà, les amis nous révèlent à nous-mêmes souvent, c'est ce qu'on a entendu, en tout cas dans l'ordre naturel, donc on peut imaginer que c'est peut être la même chose dans l'ordre surnaturel. Il y a donc deux aspects de la vie dominicaine que vous vouliez souligner pour nous montrer comment ils vous ont, j'allais dire, impacté. C'est un peu un terme à la mode, mais ils ont commencé de vous transformer. Ça ne surprendra probablement personne. Le premier point sur lequel vous voulez insister, c'était la vie commune. Alors la vie commune n'est pas propre aux dominicains, elle fait partie de la vocation des frères et des sœurs, tant apostoliques que démoniales, dominicaines. Comment vous repréciseriez, on va dire, l'importance de la vie commune au cœur de la règle qui est la vôtre?
Alors, quand Dominique fonde l'ordre des prêcheurs, il mène déjà la vie commune à l'école de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, vous savez, c'est
le fameux chanoine dont vous parliez au début.
Alors oui, c'est ça, il est chanoine de la cathédrale d'Osma, et ces chanoines suivent la règle de Saint-Augustin. Il connaît donc la règle de Saint-Augustin et il la suit. Saint-Augustin, donc, c'est cette grande figure de l'Antiquité, donc ce grand intellectuel prêtre qui, même quand il était évêque, a voulu vivre avec ses prêtres, avec des frères, en religieux, comme on vivait au 5e siècle. Donc pas tout à fait à notre manière, mais qui a cette idée très forte de la vie commune. Et pour ces religieux, si vous voulez, d'Hippone, la ville épiscopale d'Augustin, eh bien, saint Augustin rédige une règle qui est beaucoup, beaucoup plus simple, beaucoup plus élémentaire que la règle de saint Benoît, par exemple, qui sera postérieure, mais une règle qui est tout entière centrée sur l'unanimité. Comment arriver d'individus très différents, hein, et qui ont soif d'autonomie et d'aller dans leur sens, comment arriver à avoir un seul cœur, à être un seul cœur et une seule âme, à vivre ce qui est manifesté dans les actes des apôtres, à vivre la vie des premières communautés chrétiennes telles qu'elles nous sont présentées après la Pentecôte.
Alors si vous deviez sur ce sujet parler à la première personne, qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple, ou on va dire, vous n'êtes pas canonisé encore, mais un Fioretti de votre vie qui montre ce que ça transforme chez un homme?
Alors peut-être, mais la chose que je voudrais dire avant, c'est que dans nos constitutions, notre loi de vie en quelque sorte, ce qui m'a beaucoup frappé quand je suis rentré dans l'ordre, c'est que l'ordre est fait pour la prédication, on l'a compris, mais le premier élément dont parlent nos constitutions, c'est la vie commune. Comme si il y avait un mensonge à vouloir prêcher sans commencer par se frotter à son frère, hein, et à éprouver la vérité de ce qu'on prétend vivre avec quelqu'un. Hein. Alors vous savez, que ce soit dans le mariage ou dans la vie religieuse, hein, ou dans une fratrie d'ailleurs, la vie commune, hein, c'est difficile, c'est une école de vérité, on se révèle, hein, par rapport à l'autre. On se polie aussi en se frottant l'un contre l'autre.
Alors essayez de parler à la première personne, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
Oui, moi une immense joie que j'ai eue, c'est de vivre avec des frères d'âge très différents et de cultures très différentes. Nous avons enterré un grand doyen de notre communauté, le père Bernard Montagne, qui était un historien toulousain célèbre, qui était un philosophe aussi, un intellectuel de haut vol, et qui est mort comme un frère, au milieu de nous, à l'âge de 94 ans, au mois de février 2018. Et je sais que pour les frères qui se sont plus spécialement occupés de lui dans les dernières semaines de sa vie, c'est-à-dire ceux qui se sont levés la nuit pour aller le réconforter, pour aller l'aider à se recoucher, à se replacer dans son lit, pour lui apporter ses repas, etc. Parmi ces frères, il y avait des frères de 50 ans, de 45 ans et de 28 ans, et qui ont tous ont une joie, si vous voulez, de vivre cette vie de famille avec quelqu'un qui n'est pas de notre sang, hein, mais qui, plus fondamentalement, était avec lequel on se sentait une seule âme.
Allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose? Sinon, je passe au deuxième aspect. Je vois le temps qui passe, donc passons au deuxième aspect. Le deuxième point sur lequel vous vouliez insister, c'est la soif de Dieu et des hommes de notre temps. Alors là, quel est le lien avec votre règle de vie? Est-ce parce que depuis les débuts, vous êtes envoyé, on va dire, vers les périphéries, comme le dit le pape François? Pourquoi insister sur ce point?
Parce que Dominique n'a pas réalisé un projet personnel. Hein, il a découvert des hommes et des femmes dans son temps qui souffraient. Hein, qui souffraient en le sachant, pour certains, hein, pour d'autres, qui ne se rendaient pas compte d'où pouvait venir leur souffrance. Il a souffert avec eux de ce qu'ils se trompent de but, en quelque sorte. Hein. C'est ça, le sens du mot hérésie. Et je crois que aujourd'hui il y a une espèce de grand désarroi dans notre société. Et on voit bien au fond toutes les manifestations récentes, même des gilets jaunes et tant d'autres, hein, prouvent qu'il y a un désarroi, hein, de personnes qui ne savent plus où se tourner pour demander de l'aide, qui se sentent mal, hein, qui sentent bien que leur vie vaut mieux, hein, ou appelle mieux que ce qu'on leur propose. Et ces gens, je crois, ont une soif, hein, à laquelle l'Église doit répondre.
Alors si c'est un des aspects particuliers de la vie dominicaine, en quoi est-ce que d'aller à la rencontre, fort de votre engagement apostolique, à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, ça vous a changé et transformé au fur et à mesure des années. Ça fait donc 25 ans que vous êtes rentré chez les Dominicains.
Oui, parce que oui, j'ai enseigné...
Donnez-nous quelques... des exemples, si oui, c'est possible.
J'ai enseigné quelques années en lycée et à l'université avant d'entrer dans la vie religieuse. J'y suis rentré à l'âge de 29 ans. Et donc je voyais bien, enfin ce que je constate aujourd'hui, je le constatais déjà. Et j'étais dans un lycée catholique et je me rappelle très bien de conversations avec des élèves. Il y avait beaucoup d'activités, de voyages scolaires qui permettaient aux élèves de se révéler et puis de dire un peu leurs questions, leurs attentes, etc. Donc je voyais bien tout ce dont ils avaient soif. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui m'a permis de prendre conscience de ma vocation. En donnant ma vie, si vous voulez, à la suite de Dominique, hein, pour le service de la parole, de la vérité, pour le service du Seigneur, j'ai accepté de ne pas aller là où je voulais aller, mais de rencontrer ceux qui me seraient envoyés. Hein. Je crois que toutes nos rencontres nous sont données et que, à partir du moment où je suis religieux dominicain, la personne qui s'approche de moi dans un train, dans une gare, hein, ou dans un aéroport, ou dans la rue...
Est-ce que vous pouvez rapporter une de ces rencontres, peut-être une rencontre récente ?
Oui, mais dans un avion, j'ai vu il n'y a pas très, très longtemps, j'allais à Lyon en avion depuis Toulouse, le vol est court, hein, et j'étais en habit et j'ai bien vu un homme qui allait parler avec l'hôtesse de l'air. En fait, il lui demandait de pouvoir s'asseoir à côté de moi, de pouvoir convaincre. Il demandait à l'hôtesse de l'air de convaincre un passager de céder sa place pour que nous puissions être assis côte à côte. Cet homme s'est assis, il m'a dit son stratagème qui a fonctionné et il m'a dit voilà, j'ai besoin de parler à quelqu'un et quand je vous ai vu, je me dis ben c'est vous. Voilà. Et moi, je sais que j'ai donné ma vie pour lui et il avait un problème personnel grave qu'il voulait confier. Il n'aurait pas passé la porte d'un presbytère, mais soudain, parce qu'il y avait quelqu'un dans la nature, dans l'air, en l'occurrence, qui était tout proche de lui, il s'est dit « il faut que j'y aille ». Il a sauté et il a pu parler. Alors, je ne sais pas si...
Il n'a pas sauté de l'avion, mais il a sauté le pas de s'asseoir à côté de vous.
Il a sauté le pas et je ne sais pas si les mots qu'on a pu échanger auront bouleversé sa vie, ça ne m'appartient pas. Hein. Ce que je sais, c'est que j'étais là pour lui et qu'une vie donnée, vous voyez, à la suite de Saint-Dominique permet ces rencontres. Hein. Et puis toutes les autres, y compris celles avec les auditeurs de Radio Présence actuellement.
Eh ben, merci beaucoup Augustin Lafay d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Peut-être une piste de lecture pour finir, si nos auditeurs veulent aller plus loin. Saint-Dominique, dans la collection un ouvrage sur Saint-Dominique que vous avez écrit dans la collection Les grandes figures de la spiritualité chrétienne paru aux éditions des Presses de la Renaissance, livre plus CD. Saint-Dominique aux éditions des Presses de la Renaissance avec la voix entre autres de Michael Lonsdale, célèbre acteur s'il en est. Le site de l'Institut Jean de la Croix pour ceux qui voudraient suivre des formations et aller plus loin que de simples émissions pour creuser sur ces trésors de la vie spirituelle qui sont ceux de l'Église, www.institutjeandelacroix, le tout accroché sans aucun accent, institutjeandelacroix.org. Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.